Je vais essayer maintenant d'évoquer un peu le problème auquel on fait face quand on essaye de placer la possibilité du nirvana dans le contexte des quatre nobles vérités. J'ai dit qu'il y a certaines inconsistances que le bouddhisme essaye de clarifier au cours de son développement. Donc je vais essayer ici de montrer une sorte de schéma de développement du chemin qui mènerait jusqu'au nirvana et de voir quel est le problème que ceci soulève. Prenons une sorte de schéma. Donc le nirvana, la libération, c'est ce qui est inconditionné, c'est ce qui est non né, ce qui ne dépend de rien. Donc cette liberté qu'on place comme nirvana ne peut pas dépendre de quelque chose. On ne veut pas poser une sorte de nirvana, de possibilité de liberté qui serait juste occasionnelle. Voilà, on médite de manière extraordinaire et puis tout d'un coup, parce que les conditions sont là, les causes et conditions seraient là, on aurait une expérience de nirvana pendant une heure, un jour, un mois, etc. Mais comme ceci dépendrait tellement de causes et conditions, finalement, ceci disparaîtrait. Donc l'inconditionné, le nirvana est nécessairement décrit comme ce qui ne dépend pas de causes et de conditions pour être pas quelque chose d'éphémère. Donc l'inconditionné, le non-né, etc. Donc comment, depuis la situation dans laquelle nous nous trouvons, d'être ordinaire, soumis à la confusion, au désir, à la vieillesse, la maladie, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut, dans le chemin bouddhique, essayer de passer de ceci jusqu'au nirvana? Donc, si on regarde un cheminement, un peu caricatural, mais du bouddhisme primitif, eh bien, on se dit, voilà, parce que nous sommes constamment attirés, séduits par les différents désir sensoriel. Donc il s'agit tout d'abord d'essayer de se distancer de toutes ces sollicitations par les sens, des désirs liés aux cinq sens. Donc on va s'engager dans une méditation qui va lentement nous permettre de nous libérer de ces sollicitations. Donc comment est-ce qu'on pourrait le faire? Donc la tradition le décrit assez bien, c'est par le développement de la concentration, en s'asseyant dans la méditation, sans se laisser séduire, sans se laisser attirer par les promesses de satisfaction sensuelle, nouveau liées aux cinq sens. Lentement, l'esprit va se dépouiller de ceci. Il n'y aura plus d'attrait pour les plaisirs sensuel, la conscience va se calmer, elle va entrer dans une sorte d'isolement parce qu'elle n'est plus, elle ne se laisse plus séduire par ceci, donc elle tient tout ceci à distance. Le méditant, la méditante, dans ce cas-là, va simplement fermer les yeux, être pas évidemment dans un milieu extrêmement stimulant pour les plaisirs sensuels. Méditant, la méditante se tient à l'écart physiquement, mais aussi à l'écart mentalement, du point de vue de l'attitude, sans penser que ces plaisirs seraient vraiment ce qu'il y a de plus souhaitable, sans être non plus soumis aux critères de agréable, désagréable ou neutre. Parce qu'on pourrait maintenant aussi imaginer quand le méditant, la méditante va s'isoler de toutes les stimulations externes, que finalement vont surgir dans la méditation des expériences de joie très profonde, qui est le processus normal. Et là, il pourrait y avoir un danger que le méditant, la méditante s'attache à ses plaisirs subtils, méditatifs, de joie, de béatitude. Donc il s'agira aussi là, pour le pratiquant, la pratiquante, de ne pas se laisser séduire par ces expériences extrêmement satisfaisantes, extrêmement plaisantes, de dépasser ceci et de continuer la pratique pour ne pas être dépendant de ces expériences agréables. En s'engageant plus profondément dans la pratique, le méditant, la méditante, se dégageant de cette attraction pour les sensations agréables, extrêmement subtiles, ne va plus s'accrocher ni à ce qui est tangible, arriver dans les sphères complètement dépouillées, cette sphère-là dont j'ai parlé il y a quelques semaines, sphère de ce qu'on appelle l'espace infini, où le méditant, la méditante n'a à l'esprit comme support que quelque chose d'assez intangible évidemment, d'assez subtil qu'est l'espace infini. Voilà ce que a le pratiquant, la pratiquante comme expérience à ce niveau-là, c'est simplement une expérience d'un espace infini. Donc évidemment là, il n'y a aucun problème, l'espace infini ne posant pas de problème. Le pratiquant est là dans quelque chose d'extrêmement satisfaisant sans qu'il y ait un attachement à une joie, parce que la joie a été dépassée. La joie était encore dépendante un petit peu, disons, de la structure corporelle qui n'est plus éprouvée ici. Le méditant, la méditante n'éprouve plus les sensations corporelles simplement parce que l'esprit s'est désintéressé de ce qui était plus grossier, notamment tangible, tel que les sensations corporelles. Puisqu'il n'y a pas la vision non plus, on peut dire qu'il n'y a pas de perception du corps. C'est pas une négation du corps, c'est juste un désintérêt pour les perceptions qui, imagination sur l'image du corps, ou bien la sensation corporelle à laquelle on pourrait encore s'attacher. Donc il n'y a plus à ce moment-là que cet espace infini. Et puis le pratiquant, la pratiquante, se rendant compte par moment que c'est encore légèrement grossier, elle approfondit sa méditation. Et à ce moment-là, a comme unique expérience la conscience illimitée. Voilà ce qui est éprouvé dans la méditation, conscience illimitée. Donc à nouveau, ça ne pose pas de problème, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de souffrance. Même la joie a été dépassée de loin. On a un sentiment qu'on appelle équanimité, une sorte d'égalité, de sérénité, beaucoup plus subtile que la joie. Qui était éprouvé précédemment, donc espace infini. Et puis à un moment donné, je vous dis ce que disent les textes, je ne suis pas allé voir, c'est la vraie, mais il y a des gens qui vont voir, des amis qui ont passé par ces stades-là. Donc à ce moment-là, le méditant, la méditante, prouvant que ceci est encore un peu grossier, simplement faire ici quand même une petite remarque, cet espace infini ou conscience infinie, ici ce sont des concepts très subtils. On est encore dans des concepts. Pour que ceci soit un support à la méditation, il faut que ce soit des concepts. Donc, concept très subtil d'espace infini, de conscience infinie. À ce moment-là, se rendant compte qu'il y a quelque chose de grossier, le méditant, la méditante poursuit, et puis arrive dans une expérience qu'on dit rien, le néant, et se rendant compte que ceci est encore grossier, je ne sais pas bien comment, eh bien, le médium intermittent arrive à la quatrième étape, qui est celle de qu'on appelle ni perception ni absence de perception, qui est le niveau le plus subtil. Donc on se rend compte dans ce développement-là, qui est vraiment aussi le chemin par lequel le Bouddha a passé, par lequel ses grands disciples, Sariputra Moggallana, ont passé, qu'à ce niveau-là, évidemment, il n'y a pas vraiment de problème, quoi. Même personne pourrait éprouver des problèmes, il n'y a pas grand-chose qui reste, quoi. Et que le Bouddha le dit, certaines personnes s'imaginent, ben voilà, ça c'est la libération, parce que là, si c'est vraiment extraordinaire, il n'y a pas le moindre problème. Et si on imagine que ceci représente cette libération, le nirvana à laquelle on espérait, qu'on a défini comme l'inconditionné, le non-né, etc., on se rend compte qu'il y a un petit problème, c'est que dans le fond, ceci est très exigeant, une exigence immense, puisqu'il faut tenir à l'écart toutes ces choses. faut tenir les perceptions à l'écart, le désir, etc. Donc, si on pensait que ceci, c'est l'inconditionné, c'est finalement la liberté, c'est une liberté drôlement conditionnée, puisqu'elle exige l'exclusion de tout. Donc, on se rend compte que si on veut suivre un chemin qui est un chemin de dépouillement, on éliminerait tout ce qui pourrait signifier une sorte de conditionnement. Si on suit un chemin qui va nous permettre d'accéder, un chemin donc où finalement on passe par des étapes, qui va nous permettre d'accéder à quelque chose qui serait de l'ordre de l'inconditionné, eh bien ça n'a pas de sens, puisque ce à quoi on accède dépend de tout le chemin qui a précédé. Donc ceci serait à l'inverse extrêmement dépendant, exigeant, et aussi naîtrait à un moment donné. Ceci naît au moment où on a pu tenir toute chose à l'écart. On ne peut pas parler de non-né, ceci est dépendant. Surgit un instant X, on peut dire voilà, j'ai atteint cette libération, cet inconditionné à ce moment-là, mais à ce moment-là, on ne peut pas parler du non-né puisque c'est né à ce moment-là. Donc si on suit un cheminement qui est un développement graduel qui lentement mènerait à quelque chose d'inconditionné, c'est impossible puisque cet inconditionné dépendrait de tout ce qui a précédé pour finalement arriver à cet inconditionné. Donc j'ai pris ici de manière schématique, mais même si on voulait développer ceci de manière plus complexe, on est toujours dans cette même ambiguïté que si on pense qu'on peut arriver à un inconditionné en cultivant le conditionné, en s'appuyant sur le conditionné, comment est-ce que c'est possible, par des causes et conditions, aussi habilement soit-il, qu'on arrive à dépasser causes et conditions ? On est dans une situation complètement impossible. On ne peut pas faire dépendre l'inconditionné du conditionné. Donc, ce qui veut dire que puisqu'on est dans une situation, nous, qu'on peut dire conditionnée, limitée, alors évidemment, si on fait quelque chose, même si c'est très subtil, très profond, on n'arrivera jamais à l'inconditionner. Mais si on ne fait rien, on n'y arrive pas non plus, parce que ça fait longtemps qu'on s'applique à ceci. Donc est-ce que ça voudrait dire, à ce moment-là, que l'inconditionné, le nirvana, bon, c'est quelque chose d'utopique, ça n'existe pas. Puisque ce n'est pas possible. Qu'on pratique quelque chose, ben, ça va le faire dépendant de ce qu'on aura pratiqué. Si on ne pratique rien, on a déjà essayé. On ne peut pas vraiment parler d'expérience d'inconditionné dans notre quotidien. Donc ça voudrait dire finalement que cette histoire de nirvana, quoi, c'est quelque chose de parfaitement utopique, ça n'a pas de sens. Donc on peut rentrer à la maison. Vous voyez, ce questionnement, bien les maîtres bouddhistes ont dû se le poser. Non seulement ils étaient entre eux, mais aussi il y avait des grandes discussions avec les maîtres hindous qui ne s'épargnaient pas, qui étaient vraiment, ça a été un immense enrichissement, ces dialogues entre Jain, hindous et bouddhistes, où on disait votre système ne marche pas à cause de ceci et de cela. Donc ça les a obligés à approfondir ceci. Donc là on se rend compte que cette manière d'envisager un chemin spirituel partant du conditionné pour dire c'est possible de dépasser la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, c'est une possibilité. Je dis que pour beaucoup de gens, évidemment, ça n'a pas de sens de croire qu'on peut dépasser ceci. On voit ici que, évidemment, si on essaye d'envisager de cette manière-là, il y a des problèmes profonds. C'est pas que des problèmes théoriques, parce que les gens s'engageaient dans la méditation. Ils s'engagent toujours dans la méditation, vous en savez quelque chose. Donc, est-ce que cette manière que j'ai de m'engager dans la méditation peut réellement arriver à quelque chose qui serait inconditionné, puisque dans le fond, je me rends compte que je me heurte à ces difficultés. Donc, une question philosophique, mais aussi très pratique. Alors, comment je vais pratiquer pour arriver à sortir de cette impasse ? Mais voyez ce qu'on a fait ici. Si on pense à la deuxième vérité, la vérité de l'ignorance, de la confusion, dans le fond, on s'est basé sur cette manière de voir le monde, qui est une manière causale, etc. On s'est basé sur la manière de voir confuse du monde, en se disant, voilà, on va s'appuyer là-dessus, puis on va essayer d'améliorer les choses jusqu'à ce que finalement on puisse le dépasser. Mais en s'appuyant sur cette manière confuse de voir le monde, on a pris ça. Ça, c'est la réalité sur laquelle on se base pour essayer de la dépasser. Donc on s'appuie sur cette confusion en se disant, bon, on va essayer de pousser les choses au mieux jusqu'à ce qu'on arrive à le dépasser. Donc ceci, on le prend comme réalité. On a pris l'aspect du conditionné, on s'est appuyé sur le conditionné. Depuis le conditionné, on va réfléchir sur l'inconditionné. Puis on se rend compte que ça joue pas. Que depuis le conditionné, on n'arrive pas à le dépasser. Aussi habile qu'on soit à essayer de l'élaborer, etc. Mais si on essayait de voir les choses à l'envers, en se disant, dans le fond, peut-être que c'est l'inconditionné, l'incréé qui est la réalité, et que dans le fond, ce conditionné et autres, lui, on pourrait questionner, mettre en doute la réalité de ceci. Avant, on part du conditionné, on se rend compte que l'inconditionné, on a de la peine à en rendre compte. Mais si on se dit, tiens, si l'inconditionné, le non-né, l'incréé était la réalité, alors qu'est-ce que ça voudrait dire pour un chemin spirituel? Qu'est-ce que ça impliquerait? Si l'inconditionné, le non-né est la réalité, alors le chemin pour mener à ça est un chemin qui est un chemin inconditionné, non-né, non-causal. Puisque cet inconditionné n'est pas à atteindre, on peut pas, il va pas surgir à un moment donné, il est toujours déjà là, puisque c'est le non-né. Donc, ça veut dire que cette réalité dans laquelle nous nous trouverons est toujours celle de l'inconditionné. Que, si vous voulez, la liberté est déjà là. C'est ça qui est la réalité. La liberté est toujours déjà là. Et la confusion fait que tout d'un coup, on imagine ce monde conditionné et qu'on essaie de se libérer du monde conditionné par le conditionnement. Donc, on s'enferme. Donc, en changeant la perspective, si l'inconditionné est une réalité, alors l'inconditionné est purement imaginaire, est quelque chose qui est créé par l'illusion, par la confusion. Ignorance, qui de toute façon est inconditionnée, n'a pas de réalité. Donc à ce moment-là, un chemin spirituel pour arriver à ceci, il devrait être en accord avec le non-né, c'est-à-dire qu'il n'est pas causal, il crée rien du tout, il n'amène nulle part, il est complètement inutile. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça voudrait dire qu'il s'agirait de méditer d'une manière où cette méditation est pas du ressort de l'utile, elle nous amène à quelque chose. Donc, on va pas méditer pour la liberté. La méditation va être la liberté elle-même. Où chaque moment de méditation qui ne veut pas donner crédit à ce conditionné et autres est déjà une expérience de liberté. Elle n'est pas à atteindre, elle est déjà là. Donc, l'inconditionné est toujours déjà là. S'il n'est pas toujours déjà là, il n'existe pas. Donc il est toujours déjà là, c'est la réalité sur laquelle on s'appuie. Et la méditation ne va pas être un moyen d'éliminer ceci, d'arranger les choses, de réorganiser les meubles à l'intérieur. Ça va simplement être une expression de la liberté elle-même. Donc sans qu'il y ait de choses graduelles, on élimine ceci, on élimine cela. Parce que si on élimine ceci et on élimine cela, ça veut dire qu'on donne une certaine solidité, une certaine réalité à ce qu'il s'agit d'éliminer. Donc on est dans une approche du chemin spirituel assez surprenante, où tout est déjà accompli avant qu'on commence à méditer. Et si on croit qu'il y a quelque chose à accomplir, on s'enferme parce qu'on donne une réalité à ce conditionnement. Donc ici, on se rend compte que les maîtres ici, plus tardifs, sont exprimés dans ces sutras aussi, des Prajnaparamita ou du Vimalakirti, parce qu'on verra que Vimalakirti, il est exactement dans cette perspective-là. Ce qu'il n'arrête pas d'exprimer, c'est exactement ceci. Ce qui met en question, ce qu'on va voir taquine un peu les grands disciples du Bouddha, ils les taquinent dans leur croyance qu'il s'agit de cultiver quelque chose pour arriver à un inconditionné. Dans le sens, ça n'est pas possible. Donc ils se placent dans cette perspective-là. Mais maintenant, si prend la perspective de l'inconditionné, si ça c'est la réalité, alors évidemment, le conditionné n'a pas d'existence. Parce que si on avait affaire à un conditionné qui supposerait l'élimination du conditionné, vous voyez, un inconditionné qui dit l'inconditionné peut exister, ça veut dire qu'il n'est pas conditionné par quelque chose, donc il aurait une exigence. Il peut y avoir un inconditionné seulement s'il n'y a pas de conditionné. On reste enfermé dans cette opposition. Donc finalement, cet inconditionné, ce conditionné, vous me suivez ? Cet inconditionné, ce conditionné, si on en fait deux choses comme ça, c'est pareil, ça n'a pas de sens. Un inconditionné ne peut pas être l'opposé du conditionné, parce que ça voudrait dire qu'il aurait une exigence qu'il exigerait l'absence du conditionné. Donc on se rend compte que placer cette opposition entre conditionné et inconditionné, en soi-même, n'a pas de sens. Donc ceci implique, on verra, une certaine approche de la pratique, où la pratique est toujours une pratique de la liberté, de l'inconditionné pour donner un terme, si vous voulez, mais qui ne s'opposerait pas à quelque chose d'autre. Mais évidemment, on se rend compte que dans la pratique de la méditation, voilà, ça va être sympa, il n'y a rien à faire, tout est déjà là, etc. On va s'asseoir, on va fermer les yeux, on va avoir mal au dos, on va avoir de la somnolence, on va dire, ben voilà, c'est bien beau, mais enfin, j'avance pas beaucoup avec ça. Donc on va essayer de déterminer comment, dans la pratique, je l'ai dit au tout début, que comme on enseigne Vipassana, avec Patricia, en général, on est conscient de ceci, on essaie d'enseigner d'une manière qui ne contredit pas ceci, mais évidemment, on aura quand même besoin de quelques éléments qui nous permettent de nous asseoir. Et puis voilà, il n'y a rien à faire, donc du coup, je refais la liste des commissions, je refais, voilà, bon, il n'y a rien à faire. Donc c'est quand même essayer de trouver, on verra, quelques éléments qui nous permettent d'approcher ceci. Parce que faut bien admettre que quand on s'assied pour commencer, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi, je m'assieds vraiment dans le conditionné, quoi, tout d'abord, c'est là que ça se passe. Donc partir de là et essayer d'explorer comment cette attitude qui donne tellement de crédit au conditionné, on va pouvoir la relâcher pour finalement s'ouvrir à cette possibilité.